En avant la musique, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée aux musiques traditionnelles présentée par l'AMTA, l'Agence des musiques des territoires en Auvergne. Aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons parler d'une des cornemuses de la région, la cabrette, et d'un des meilleurs musiciens spécialistes de cet instrument, et il est aussi fabricant, à savoir Joseph Riols. En effet, l'AMTA vient de faire paraître un livre-disque qui lui est consacré, à lui, à son répertoire et à sa façon de jouer. André Ricrot et Éric Desgrugillers ont travaillé de concert et en complémentarité à cette nouvelle publication, et ils sont venus nous la présenter. Bonjour.
Bonjour José.
Vous allez bien ? Vous m'avez l'air un petit peu atone ce matin. C'est le dimanche qui fait ça, non ?
Non, mais Eric est en retard ce matin, donc c'est
ah
pour
oui,
ça.
Mais c'est le dimanche,
ça
on a le droit de faire
ça
la...
Ça m'a agacé.
Voilà, comme ça,
ouais,
tout,
mais on a le droit de faire la sieste. alors, André Ricrot, on va commencer par où ? Vous êtes chanteur et cabrettaire, et je crois savoir que vous êtes un des familiers de longue date de Joseph Riols, celui à qui est consacré cet ouvrage, livre et disque. Alors, d'abord, racontez-nous comment vous l'avez rencontré, et puis quand ? Ça
alors,
va vous rajeunir.
Je l'ai rencontré en 1972. Il était, il travaillait déjà, il fabriquait des cabrettes sous l'hôtel de sa femme. C'était au Brézou.
C'est où ça, le Brézou ?
Alors, le Brézou, c'est, je pense que c'est la commune de, c'est en dessous Mur de Barrès, quoi. C'était parce qu'il faisait une centrale souterraine, et donc il y avait tous les ouvriers de l'EDF qui travaillaient là, et Jeannette, sa femme, tenait un hôtel-restaurant.
On est dans le Cantal ou on est déjà passé dans l'Aveyron, là ?
Mais c'est juste à la limite, je pense.
D'accord.
Voilà, donc c'est en 72, donc ça fait 44 ans.
Mais alors comment vous l'avez déniché ? Comment vous l'avez trouvé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez chez lui ?
À cette époque, moi, je voulais jouer de la cabrette, donc j'avais trouvé des instruments fabriqués par quelqu'un qui bricolait, c'est le terme, à Rodez. C'était très difficile de jouer avec ces instruments parce qu'ils avaient une gamme... arabo-auvergnate.
Aléatoire, quoi.
Et donc, j'ai appris assez vite que Riols fabriquait des cabrettes. Et donc, je suis allé le voir, voilà. Ça a commencé comme ça.
Voilà, donc vous êtes arrivé chez lui comme ça, en lui demandant de vous fabriquer un instrument ?
Oui, ouais. Et puis, petit à petit, on a été le voir, parce que quand on l'a entendu jouer, on est tombé à la renverse. C'était vraiment un grand musicien, quoi. Grand interprète.
Et vous l'avez découvert en tant que musicien dans un contexte privé, par exemple chez lui, ou plutôt en situation de bal. C'est quoi la première fois
d'abord
où vous l'avez
lui.
Entendu jouer ?
Chez lui. Quand on allait le voir pour faire régler une cabrette, il essayait, il jouait un petit peu, et là, c'était quand même impressionnant. Quoi.
D'accord.
Alors, c'est vrai qu'il faisait ça dans des anciennes douches et des toilettes sous l'hôtel, donc c'était tout carrelé. On ressortait, on avait une tête comme une courle, parce que ça résonnait, que c'était infernal.
Et tout de suite, qu'est-ce que c'est qui vous a intéressé chez lui ?
Ah, mais c'est la sensibilité de l'interprète. Hein. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui a une relation à la musique, qui a... Oui, c'est un très très grand musicien, ça c'est sûr.
Alors vous connaissant un petit peu, je suppose que d'emblée, vous l'avez collecté, vous avez essayé de savoir quel était son parcours, comment il avait appris, avec qui. Bon, maintenant vous êtes dans une situation où c'est à vous de transmettre tout ça. Quel est son parcours à Joseph Riols ?
C'est plus compliqué que ça, parce qu'au départ, l'intérêt pour la musique et la collecte existait, mais c'était d'abord il fallait qu'on ait des instruments. C'est la première recherche qu'on a, qu'on a faite, que j'ai faite. Après, je me suis intéressé au répertoire et après au contexte de l'apprentissage et de sa vie. Ça s'est fait par étapes. Et donc au début, il me permettait d'avoir des instruments pour jouer. C'est déjà beaucoup. Après, compte tenu de la qualité de son jeu, je l'ai enregistré pour des éléments de répertoire. Et les choses de son apprentissage et de sa vie sont arrivées bien plus tard, d'autant qu'il n'est pas très expressif sur le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et alors, comment il a appris, lui ? C'est quoi son histoire ?
Alors, c'est quand même une histoire assez... c'est presque romanesque, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il habite à Sissac, qui est un hameau de la commune de Cantoin, dans le canton de Sainte-Geneviève, lui-même, dans le haut du département, la partie aubracienne, de l'Aveyron.
Mais qui touche au Cantal, tu vois, on n'est pas loin.
Ça touche le Cantal. Et il est intéressé par la musique. Il a déjà fait des petits bouts de flûtio, parce qu'il est adroit, il a des mains en or. Et dans son village, il passe à un moment donné dans le bas du village. Il y a un chien qui apparemment agace son propriétaire. Il a un bout de bois à la main, il le lance sur le chien. Le bout de bois le rate, rebondit, tombe quasiment entre les pieds de Joseph. Et c'est un hautbois de cabrette.
Eh ben, dis donc.
Donc, il le prend et lui dit, écoute, toi, ça t'intéresse la musique, t'as qu'à le prendre. Il part avec. Il va à Vigne voir un ancien qui jouait la cabrette. Il lui met une hanche. Et puis, il commence à jouer là-dessus à bouche. Par curiosité, il regarde l'ange de près, parce que c'est quand même c'est le moteur. Hop, il la casse.
Ah.
Et donc, avant, il y avait beaucoup de panières qui étaient faites avec du roseau. Donc, il prend un petit bout pour réparer, parce qu'il avait cassé une lamelle. Donc, il démonte tout précieusement et il essaie de refaire exactement la partie qu'il a cassée. Il remet tout en place et hop, ça marche. Donc déjà, il est relativement
doué. C'est le début de la fabrication.
Et puis, petit à petit, Jean Vic, qui est ce fameux joueur de cabrette, qui lui passe un sac, lui met un boîtier, donc, et puis il joue à bouche.
Oui, parce que en fait, là, on le disait tout à l'heure, mais on est passé un petit peu vite dessus, c'est que la cabrette est une cornemuse qui peut se jouer à bouche ou à souffler.
Oui, ça ne change rien, sauf que bon, c'est des habitudes qu'on prend. Et d'ailleurs, le fait de jouer à bouche, ça détermine une position par rapport à l'instrument, une attitude. Et puis le fait de jouer ce qu'on appelle à l'envers, souvent les gens qui jouent à bouche jouent comme ça parce que ça permet d'avoir le bras qui appuie sur le sac beaucoup plus bas sur la partie où il y a le plus d'air, au lieu de faire ça.
C'est dommage, on n'a pas de vidéo, vous ne pouvez pas voir, mais André Ricro mime la situation.
La main droite à la place de la main gauche et la main gauche à la place de la main droite.
Voilà. Allez, on y va, on écoute encore Joseph Riholz.
Thank you.
La baigneuse par Joseph Riols à la Cabrette.
En avant la musique, José Dubreuil.
Alors André Ricroux est avec nous aujourd'hui, accompagné de Éric Desgrugilliers pour nous parler de la dernière publication de l'AMTA, un livre-disque sur Joseph Riols, un célèbre cabaretier. André, donc, il commence à bricoler un peu avec ce pied, à jouer à bouche, la cabrette à bouche avec sur les conseils donc de ce cabaretier Vic, et après. Qu'il rencontre, comment il progresse.
Alors, les déplacements se font à pied. Donc, il voit un certain nombre de jours de cabrette, parce que sur la commune, il y en a déjà pas mal. Et quand il va à une foire à Sainte-Geneviève, qui est le chef de canton, il passe dans une rue où il entend quelqu'un jouer de la cabrette. C'est Roucari qui joue avec Quéron de Marceau, qui était joueur de cabrette, qui a été également patron de bal musette à Paris, comme Roucari. C'était deux professionnels de la deuxième moitié du dernier tiers du 19e et jusqu'à la guerre de 14. Donc des vrais professionnels qui jouaient tous les jours quasiment. Et il entend ces deux bonhommes jouer, dont le son de Roucari qu'il arrête. Il reste, la fenêtre était ouverte sur la rue, il s'arrête, il écoute un moment. Roucari le voit, puis quand il rentre chez lui, il repasse devant, il s'arrête. Et là, Roucari est tout seul, et lui dit, mais écoute, ça va t'intéresser, rentre. Et il lui dit, mais essaye. Et comme il jouait à bouche, il a pas pu réussir à fonctionner avec une cabrette qui avait un soufflet. Donc dans les semaines qui ont suivi, il a réussi à trouver un sac et un soufflet, il s'est remis à son apprentissage, et il est revenu voir Roucari, de plus en plus souvent, surtout quand il a pu acheter une moto à partir de 17 ans. Donc il pouvait faire le trajet parce qu'il y avait entre 6 et 9 kilomètres à pied. Et donc il allait voir Roucari qui lui disait comment jouer. Mais Roucari, et là ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'information hier, alors que ce document est sorti, il me dit que Roucari est élève de Kosterost, jouait dans un des deux bals de Kosterost, d'un point de vue professionnel. Et donc il a...
Là, on est en train de parler des rois de la cabrette.
Et là, il transmet un des grands styles, parce que dans les styles de la cabrette, il y a deux grands styles parisiens, qui est le style Ranvier et le style Kosterost. Roucari est un des adeptes de ce style qu'on appelle aussi style de l'Aubrac, on est en plein dedans. Et Joseph Riols se retrouve au croisement de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on l'entend, on entend une partie sûrement du grand style de l'Aubrac venant de... l'origine de celui qui est censé le porter, qui est Joseph Kosterost, qui est né en 1850.
D'accord. Donc on est branché directement avec la fin du 19e, quoi.
Oui, et c'est une information qu'il me donne hier, alors que je le connais depuis 44 ans.
Et alors, comment il se met à fabriquer et quand ?
Mais
il reste toujours au pays, lui, Joseph Riols ?
Alors, ses parents ont immigré à Paris. Ils ont été dans le commerce. Il y avait un bistrot, etc. Et son oncle était le meilleur copain, ami de Gasparou. Et donc, en suivant son oncle, il a rencontré Gasparou au Lila quand il était à Paris, parce qu'il est resté à Paris jusqu'à 14 ans à peu près. Mais pas de 0 à 14 ans, c'est-à-dire que quand il était enfant, il a été élevé par sa grand-mère, puis il a passé quelques années à Paris, puis après, il est redescendu pour aider à la ferme. Mais il voit Gasparou, il a entre 12 et 14 ans, il le voit souvent, il le voit fabriquer des cabrettes avec son oncle, et là, il colle l'intégralité de toutes les images, les outils, et il va récupérer une partie du matériel de Gasparou, pas mal de pieds, et il va voir un autre fabricant qui lui était également à Paris, qui était joueur de patron de balmusette, qui est Quéron de Marceau, toujours dans la commune de Sainte-Geneviève, et il va le voir de temps en temps. Donc il a des éléments, et quand il s'aperçoit qu'il y a une grosse demande en matière de cabrette, et que lui a une maladie qui le cloue d'un point de vue professionnel, il va s'installer pour commencer à fabriquer des cabrettes, et il va faire que ça toute sa vie.
Et vous nous l'avez dit avant toute chose, c'est qu'il est très très habile de ses mains. Alors, on a bien compris quel est le lien de Joseph Riols et de André Ricroux depuis de nombreuses années. Vous, Éric Desgrugiller, donc, vous êtes musicien, chanteur. On vous écoute d'ailleurs dans cette émission très souvent dans le disque Os d'Elan là. Et vous êtes responsable des archives sonores de l'AMTA. Alors, quelle a été votre contribution là, pour cette publication ?
Alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas connaître Joseph Riols, c'est-à-dire que j'ai abordé sa musique avec un certain détachement. C'était ça qui était prévu, et en fait, comme André l'a bien décrit, moi ça m'a fait la même chose, quand je l'ai entendu jouer, je suis tombé un petit peu par terre, en me disant « Ouh là là, c'est quoi ce jeu de cabrette ?» La cabrette, c'est pas toujours facile à écouter, mais lui, quand on l'écoute, on a envie de l'écouter. Et ça fait pas ça chez tout le monde. Donc du coup, ce jeu m'a intéressé et ma contribution a consisté plutôt à étudier un petit peu le jeu, mettre quelques extraits en partition et puis expliquer...
Parce qu'il y a des partitions dans le livre.
Voilà, il y a quelques partitions dans le livre qui aident à comprendre le jeu. Et en fait, en écrivant les partitions, je me suis trouvé face à des problèmes qui me paraissaient au début à peu près insolubles. Je ne savais pas comment fallait que j'écrive ces partitions parce que j'entendais des trucs qui étaient entre deux. J'arrivais pas à trancher entre le choix de l'écrire d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai pris un logiciel et j'ai ralenti la musique. Et là, j'ai entendu des trucs bien spécifiques. J'en ai parlé à André, j'en ai parlé à Jean-Claude Rieux, qui est un autre spécialiste de la cabrette qui a mis au point des éléments pédagogiques pour transmettre le jeu de la cabrette. Mmh. Et il s'est trouvé que la façon de jouer de Joseph Riols était très, très, très particulière. Donc, ma contribution a été d'essayer de traduire avec des mots simples. C'est un article musicologique, mais qui s'adresse à tout le monde. Les éléments spécifiques de son jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le jeu de Joseph Riols et qui vaut le coup aujourd'hui d'être écouté pour que les musiciens s'en inspirent. Voilà, parce que c'est un musicien qui a une grande conscience de ce qu'il fait, qui, quand il pose une note, il la pose à tel moment et d'une certaine façon, et c'est toujours voulu, quoi. Ça, c'est vraiment... Il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Avec André Ricroux et Éric Desgrugiller, aujourd'hui nous consacrons l'émission à Joseph Riols pour être en lien avec la dernière publication de l'AMTA, un livre-disque. Alors j'en étais à Éric tout à l'heure, je me demandais qu'est-ce que vous avez découvert dans ce travail minutieux d'écoute que vous n'aviez pas entendu la première fois, par exemple, que vous avez entendu Joseph Riols.
Alors, la première fois que j'ai entendu Joseph Riols, j'ai été frappé par le rythme, sa façon de faire du rythme, en particulier sur les bourrées. Je me suis dit, comment sur... Alors, une cornemuse, c'est un son continu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment faire du détaché avec. Pour faire du détaché, il y a des astuces de doigté pour donner l'impression du détaché. Et lui, il fait ça avec une énergie incroyable. Je me suis dit, mais comment il arrive à faire du détaché, à donner un rythme aussi précis et péchu sur une cabrette. Et en fait, à la réécoute, avec le ralenti, j'ai compris que Donc il y a les notes de la mélodie, et entre les notes de la mélodie, il fait d'autres notes. On appelle ça des piquets. Mm-hmm. Et en fait, il se trouve que les notes piquées sont un peu plus longues que les notes mélodiques. Alors ça, c'est ce qu'on entend au ralenti, mais dans le jeu, à vitesse normale, ça donne une impression de rapidité d'une part, même si le tempo n'est pas si rapide que ça, et d'énergie avec un rythme très particulier. Donc cette façon de jouer, donc c'est un détail, mais y a des tas de petits détails comme ça qui sont très spécifiques à son jeu et que j'ai essayé de décortiquer. C'est un exemple parmi d'autres.
Alors vous parlez de son jeu spécifique des bourrées, mais il excelle aussi dans les regrets. On vient d'en écouter un, le pont de la cadenne.
Eh oui, alors dans les regrets, alors André en parlerait mieux que moi, mais...
Mais il peut en parler aussi.
Il peut en parler aussi, mais et c'est André qui m'a dit ça, donc il pourra rebondir dessus. Joseph ne peut pas jouer s'il ne connaît pas les paroles. Donc en fait, dans sa tête, il chante.
S'il n'a pas le texte.
Donc quand il joue de la cabrette, il chante, il dit quelque chose.
Et il chante dans sa tête.
Ah, il chante dans sa tête.
Voilà, c'est ça.
Mais du coup, ça a une incidence sur le son produit d'une part. Il y a une certaine vocalité dans son son de cabrette. Et puis sur le phrasé de l'autre. C'est comme si la cabrette, comme si les notes ensemble faisaient des mots, en quelque sorte. Et on l'entend très bien dans sa façon de jouer.
Vous êtes d'accord avec ça, André Ricrot ?
Absolument.
Vous acquiescez, je vois. Alors, on va faire un petit bout d'agenda avant de poursuivre ce dialogue. Alors, tout d'abord, je voudrais vous donner deux rendez-vous pour danser. Alors, c'est deux rendez-vous à l'entrée libre. Donc, c'est toujours très intéressant. Il y en a un dans le Cantal, le vendredi 2 décembre, au restaurant Les Voyageurs à Saint-Paul-des-Landes. Et l'autre est organisé par la 5e saison à Frugières-le-Pin. Et là, ça se déroule le samedi 3 décembre dans le Puy-de-Dôme. Le vendredi 2 décembre à Saint-Étienne-sur-Usson, vous pourrez aller assister au spectacle de conte Le Bal des Loups avec Patrick Rochdy et Virginie Basset au violon. Le samedi 3 décembre à la Maison de l'Oradou à Clermont-Ferrand, c'est l'association Bal au Centre qui vous propose un bal avec Mr. Clouf. Alors Mr. Clouf, c'est Julien Cartonnet à la cornemuse, Sylvain Quéré à la guitare, Tiené Simonin à l'accordéon et Sylvain Vieudard à la flûte traversière. Et ce même soir, il y aura le duo Étienne, à savoir Cyril Étienne à la clarinette et Loïc Étienne à l'accordéon. Et pour bien vous préparer au bal du soir, dès 14h30 se déroulera un stage d'initiation aux danses avec Cyril Étienne et Didier Descombats. Alors, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais nous parlons de ce livre-disque de Joseph Heuriholtz qui va être inauguré le jeudi 1er décembre à l'AMTA et on vous invite à venir découvrir cette dernière publication donc de Joseph Heuriholtz en compagnie de Joseph Heuriholtz à Rion. Alors moi j'aimerais bien que vous nous disiez comment ça va se passer, à quelle heure il faut être là, où, enfin vous nous donniez tous les renseignements, comment allez-vous dérouler cette soirée?
Alors c'est à 18h. À 18h à l'AMTA.
Alors comment ça va se passer? Il va y avoir Joseph, est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez... j'ai entendu parler d'une mini-conférence.
On va raconter un petit peu ce qu'on est en train de raconter ici, mais peut-être d'une façon plus, plus conviviale. Il y aura du monde, il y aura des musiciens qui sont là et j'espère bien qu'ils auront l'idée de prendre leur instrument et que tout ça sera très festif. S'il est possible qu'on boeuf avec Joseph Heuriholtz, ce serait absolument génial. Et bien sûr, on va présenter ce livre-disque, mais le but est que cette inauguration soit festive et puis que lui puisse profiter aussi d'un bon moment avec son public.
Voilà. André, dans ce disque, dans ce livre-disque, ce sont des enregistrements dont vous avez... vous avez tous ces enregistrements, c'est vous qui les avez faits ou il y en d'autres
Non, non, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Il y a lui d'abord, il s'est auto-enregistré.
Ah oui.
Puis il y a des enregistrements qui viennent... de Bachelry, de Guy Meige.
D'Olivier Durif aussi.
D'Olivier Durif, on a fait d'Éric Bombel.
Voilà, Gilbert Rochereau.
Oui, il y a beaucoup de gens qui ont enregistré.
Et il y a beaucoup de titres, puisqu'il y en a 39.
Oui, mais il y en a beaucoup par rapport à un disque ordinaire, mais oui. Par rapport à ce qu'on aurait pu mettre, on pouvait faire plusieurs disques.
Oui, c'est ça. Alors, comment vous avez fait pour faire les choix, justement, dans ces dizaines et dizaines et dizaines d'heures que les fonds sonores de l'ANTA possèdent ?
Mais c'est... Bon, Eric va en parler d'un point de vue technique, mais en fait, comme on a des enregistrements anciens, on a des enregistrements qui datent de tout début des années 70, voire 68-69, c'est-à-dire la cassette qu'il a réalisée lui-même. Donc on a fait en fonction de la qualité du jeu, là où il n'y a pas trop d'arrêts, de gens qui parlent au milieu, et puis de la qualité du support, c'est-à-dire comment ça a été enregistré. Donc il fallait, c'est un compromis entre... La qualité du jeu et la qualité de l'enregistrement.
Il doit y avoir de tout, comme des cassettes, des bandes. Il y a un peu de tout comme support de base.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est essentiellement des cassettes audio et puis des bandes audio.
Alors justement, Eric, vous avez dû sûrement travailler sur la qualité de ces matériaux et enlever certaines imperfections. Comment vous avez procédé ?
Alors,
faut pas dévoiler.
Il ne faut pas tout dévoiler. Mais en fait, donc, le travail de restitution sonore a été fait par le studio Blatin, par Vincent Verdier du studio Blatin. Moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement numérisé en gardant le plus possible de signal. Mais c'est vrai que les supports avaient des qualités très, très diverses. Et comme on a sélectionné... Alors, il y a quand même une partie des morceaux qui a été sélectionnée par Joseph Ruholz lui-même, qui voulait... Il y avait certains morceaux qui étaient très importants pour lui, qui font partie de son apprentissage ou alors de ses favoris. Donc, il souhaitait vraiment...
Ça a été une négociation
très, très longue négociation. Parce qu'on était à une cinquantaine de morceaux. On en a enlevé... un quart, on en a rajouté un tiers,
voilà.
On a multiplié par 2, divisé par 4, et on a fait des allers-retours entre Joseph et nous, par mon intermédiaire, peut-être 4-5 fois, ça a duré des mois, parce que c'était très important pour lui, parce que c'est son image, c'est que ça sera le seul support qui va...
Oui. Qui restera.
Qui va rester. Donc
oui,
il
parce qu'il faut dire
attentif.
C'est une personne un peu âgée quand même maintenant.
Mais Joseph va avoir 90 ans au mois de septembre prochain.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On ne l'a pas dit encore, mais il y a dans ce livre aussi des photos et les partitions, ça, on l'a dit. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet ouvrage est disponible à la vente auprès d'Auvergne Diffusion. C'est facile, auvergnediffusion.fr. De toutes les façons, vous le savez bien, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'avez pas besoin d'hésiter, vous appelez l'ANTA, qui se fera un plaisir de vous renseigner. Alors vous pouvez contacter l'ANTA au 04 73 64 6000. Pour ceux qui ont internet, eh bien c'est anta.fr et vous pouvez venir nous voir aussi. Nous habitons à Rion, au 1 route d'Enza. Je me demandais quand même, Eric, vous avez eu votre mot à dire sur la sélection, où ça s'est fait entre André et Joseph Ruholz?
La première sélection, on l'a fait à deux avec André. André m'a dit, écoute les bandes et choisis des morceaux. Moi, je sais ce que je vais choisir. Donc, la première sélection qu'on a fait, on a mis ensemble le truc. Et on était relativement d'accord sur le contenu.
Et donc, après, André a eu à charge de négocier avec Joseph, si je comprends tout. Merci à vous deux d'être venus jusque-là. L'émission touche à sa fin. On pourra se retrouver, ne l'oubliez pas, chers auditeurs, le 1er décembre à Rion, à 18h, pour l'inauguration de cette publication. On se quitte pour mieux se retrouver dimanche prochain. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et en place pour les Mazurkas avec Joseph Ruholz.